1956, l'homme de lettres Henri Guillemin donnait une causerie intitulée « Le drame de Verlaine » dans le cadre de l'Université des Annales. Dans cette causerie, radiodiffusée par la chaîne nationale, Henri Guillemin proposait son interprétation de la vie de Verlaine qu'il avait choisi de découper en 6 parties, en 6 actes en quelque sorte. Nous allons entendre ce grand conférencier nous dire maintenant, avec passion, ce que fut le drame de l'existence de Paul Verlaine et la grandeur du poète, non sans avoir tout d'abord égratigné André Breton et les surréalistes pour le mépris dans lequel ils avaient cru bon de le tenir. Les grandes conférences, le drame de Verlaine par Henri Guillemin, diffusé le 23 juillet 1956 sur la chaîne nationale.
Dans le cadre des grandes conférences, nous vous invitons à écouter en nouvelle diffusion le drame de Verlaine, une causerie d'Henri Guillemin.
Mesdames, messieurs, Verlaine, le poète, paraît aujourd'hui un peu fané, un peu dépassé, et même périmé. On répète volontiers de lui que c'était un impressionniste, et bien entendu qu'après les merveilles de l'art cubiste, ou surréaliste, ou abstrait, l'impressionnisme, ça date. De ce déclin de Verlaine, les professeurs nous donnent volontiers quelques preuves, 2 preuves en particulier, les sévérités d'André Breton et la censure de Thierry Mounier. André Breton, il n'y a pas tellement longtemps, renvoyait avec dédain Verlaine, en même temps que sa main, à ce qu'il appelait les émois des petites pensionnaires de province. Et vous savez certainement que Thierry Mounier, dans son anthologie de la poésie française, a complètement annulé et supprimé le personnage de Verlaine. Pas un vers de lui dans cette grande anthologie. Vous avouerez cependant que j'ai un peu de mal à garder mon sérieux, enfin à prendre ça au tragique, devant ce coup de hache, ou si vous voulez, ce coup de canif. Car enfin, sur l'autorité que peut avoir Thierry Mounier en manière de discernement poétique, il me semble que nous sommes immédiatement renseignés, et par lui-même, et de la manière la plus complète. Car si vous avez feuilleté cette anthologie de la poésie française, vous êtes certainement aperçu que si Verlaine est disparu, pour tenir la place de Nevermore, par exemple, ou du Brin de Paille, ou de ces belles choses qu'on pourrait extraire de sagesse, il y a tout un stock de vers de Mirliton de M. Charles Maurras, de quoi nous rassurer tout de suite et tout à fait. Vous comprenez bien qu'en réalité, ce sont des raisons extralittéraires qui le font agir, passons. Et je crois aussi que ce sont des raisons extralittéraires qui justifient les sévérités d'André Breton. Voyez-vous, Verlaine a été tout de même un poète chrétien. Il a fait des vers chrétiens. Et les surréalistes sont tels que le christianisme leur apparaît comme une tare irrémissible. Regardez ce qu'ils ont fait à l'égard de Rimbaud, par exemple. Ils se réclament de Rimbaud, ils ont raison de se réclamer de Rimbaud. Mais il leur faut absolument que Rimbaud, jamais, n'ait été chrétien. Et que si, à la fin de sa vie, tout à fait sur son lit de mort, il a accepté, ou j'aimerais mieux dire selon eux, subi les derniers sacrements, c'était dans un état comateux et qui n'indique plus rien. C'est curieux de voir comme les surréalistes, qui sont des gens très attentifs au mystère, qui sont inclinés même du côté du surnaturel, récusent le surnaturel dès qu'il est chrétien. Depuis la fin de la guerre, des travaux importants ont été faits sur Verlaine. Il y a ceux d'Antoine Adam, qui avait commencé avant la guerre et qui a publié, il n'y a pas tellement longtemps, je crois à peu près 2 ans, un tout petit livre chez Atien, de 6 livres scolaires qui n'ont l'air de rien. Enfin, on se figure que nous autres, c'est pas la peine qu'on le lise, et au contraire. Ce Verlaine, l'homme et l'œuvre d'Antoine Adam, va très loin, apporte des faits nouveaux, est un livre de premier plan. Puis il y a la thèse de mon camarade Bornec sur les poèmes saturniens, qui nous a appris quelque chose d'important que je vous signalerai tout à l'heure sur un personnage qui a compté chez Verlaine et je ne le savais pas. Et puis il y a un petit ouvrage également dans une collection facile, la collection des poètes d'aujourd'hui, je crois, de Pierre Segers. C'est le livre de Jean Richer sur Verlaine. Voilà 3 documents, enfin 3 livres importants depuis la guerre qui attestent que Verlaine n'est pas si éloigné que ça de nous. Alors essayons de voir comment se présente cette destinée. Ben, voyez-vous, c'est une tentation évidente pour un écrivain, pour un critique, pour un professeur, et je n'oublie pas que j'ai été longtemps professeur, c'est une tentation de découper une vie en étapes distinctes, parce que c'est plus commode, et pour l'intellection, et pour la présentation. Mais je vous assure aussi qu'on ne se trompe pas avec Verlaine en découpant cette vie, car elle a des sections. Elle est admirablement, elle est nettement ordonnée. Vous allez voir comment on aperçoit 6 étapes, dans ce destin. La première étape, c'est la plus longue, celle qui comprend l'enfance et l'adolescence. Alors, de sa naissance, 1844, à une certaine date, que vous verrez très précise. Pourquoi? Le 30 décembre 1850. 65. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors donc, sa naissance en 44 à Metz. Il se trouve que son père était officier. Vous savez que c'est un autre rapprochement avec Rimbaud, puisque Rimbaud aussi était un fils d'officier. Son père n'est pas resté longtemps à Metz. Il a pensé qu'il fallait venir tout de suite s'établir à Paris pour l'éducation de l'enfant. Et ce que je dois souligner tout de suite, c'est important, c'est que ce petit Verlaine a eu une enfance heureuse. Texte de lui. Or, je naquis choyé, béni. Vous voyez, comparé avec l'enfance de Baudelaire, par exemple, où il y a cette blessure, enfin ce profond traumatisme chez Baudelaire. Rien de semblable chez le petit Verlaine. Tout va bien tout de suite. Des parents qu'il aime, il est fils unique, on l'adore, enfin il est élevé doucement, tendrement, dans le bonheur. Et tout à coup, voilà la date coupure, la date grave dans sa vie, ce 30 décembre 1865, qui est la mort brutale de son père. Essayons de bien comprendre. Voyez-vous, ce qui se passe ce jour-là pour lui, c'est la première rencontre avec la mort. Il est le fils de ce qui n'est déjà plus. Il comprend dans sa chair même, enfin, la puissance déchirante de ce mot, le passé. C'est fini, c'est complètement fini, et pour toujours, le temps où tout son horizon, c'était cette chambre et deux visages. Sentiment de l'irréparable, sentiment de l'éphémère. Surtout une poignante douleur qui est en lui, de ce qui est derrière lui maintenant. C'était certainement ce qu'il y aura de meilleur dans sa vie. C'était le temps de son innocence. Un mot qui compte beaucoup pour lui, bien sûr, depuis quelques années. Il a fait la découverte d'autres joies, beaucoup plus fulgurantes que les joies de l'enfant. Il nous parle dans un texte de la fin de sa vie de l'aurore de la vie avec son clairon fou. Il s'est jeté sur des corps féminins et masculins, car il a fait tout de suite des expériences homosexuelles. Il y a goûté en effet des plaisirs furieux. Et maintenant, le jour où son père est mort, le jour où on enterre son père, il voit ça avec horreur, avec dégoût. Rien ne l'intéresse plus du côté de ses plaisirs qui lui étaient foudroyants et fulgurants. Il ne voit plus que l'étendue noire du néant où il entrera sans doute bientôt ou peut-être plus tard. Cette immense étendue sombre où il avait cru un certain temps qu'il y avait quelqu'un et où il a le sentiment maintenant qu'il n'y a personne. La deuxième étape, eh bien infiniment plus courte, la première ayant 21 ans environ, la deuxième étape commencerait donc, mettez si vous voulez le 1er janvier 66, et la coupure qui n'est pas marquée cette fois par une date, mais qui est tout de même sensible, c'est l'été 1869, milieu de l'année 1869. Qu'est-ce qu'il y a dans cette seconde partie? Il y a d'abord ceci, un homme visiblement devant nous, qui glisse, qui s'enfonce, qui s'enlise. Dans quoi? Dans la boisson et dans la luxure. Dans la boisson, deux preuves. J'en trouve une dans une lettre à Copé, son camarade Copé, qui ne prenait d'ailleurs pas très au sérieux, nous le reverrons tout à l'heure. Une lettre de juin 68 à Copé, une lettre goguenarde et assiricanante où il lui dit « Je me remets, comme je peux, de 3 jours de cuites excessives ». S'il écrivait ça en riant, je crois que sa mère avait lu ça, elle aurait moins ri que lui. Puis d'autre part, un petit détail qui nous a été fourni par Porcher, dans son bon livre, livre intéressant, enfin, auquel j'ai tout de même à faire un reproche, le Verlaine tel qu'il fut, qu'il avait publié, je crois, en 1937. C'est ce petit détail des funérailles d'une tante de Verlaine, tante du côté de sa mère, qui était morte au début de l'année 69 à Palizol sur la frontière belge. Alors voilà le détail. On a les comptes de l'enterrement, les frais d'enterrement. Alors il y a les frais pour le corbillard, les frais pour le service religieux, et puis il y a, au bas de la note, et 5 francs pour eau de vie de Genièvre livrée à Monsieur Paul. On avait envoyé Paul Verlaine pour représenter la famille. L'eau de vie de Genièvre, à ce moment-là, c'est Monsieur Porcher qui a fait le calcul, coûtait 1 sou, le petit verre. Alors tout de même, 5 francs, ça fait 100 sous. Par conséquent, en moins de 48 heures, il avait bu ses 100 petits verres d'eau de vie de Genièvre. Bon, voilà pour la boisson. Et maintenant, la luxure. Regardez ce qu'il publie dans les années où nous sommes. C'est uniquement charnel. Il y a même un livre de lui qu'il ne publiera que, comme on dit, sous le manteau. Il le fait éditer en Belgique, ça s'appelle « Les Amis ». Il le signe Pablo de Erlagnez et c'est un livre de poèmes saphiques. Mais alors, son livre public, enfin son livre ouvert, c'est « Les fêtes galantes ». Quand on pense fêtes galantes, on pense à Watteau, bien sûr. Alors, on s'imagine de beaux jardins, enfin, avec un ciel pur, quelque chose d'à la fois blanc, bleu et rose. Mais lui-même, Verlaine, nous a avertis sur l'interprétation des fêtes galantes d'une manière qui est bien intéressante. Vous me direz qu'on n'avait pas besoin de l'avertissement parce que quand on lit bien le texte, on voit ce qu'il y a dessous. Mais c'est lui qui a pris la peine de nous le dire. C'est dans un de ces textes de la fin de sa vie qu'on ne lit pas assez. C'est ça qui est précieux dans l'édition de la Pléiade. Vous savez, des Verlaine tout entier en un volume. Parce qu'on peut avoir là les poèmes de la fin, ces livres qu'on ne lit pas comme invectives ou comme les textes posthumes. Ben, je ne sais plus si c'est dans invectives ou dans un autre texte, mais c'est tout à fait de la fin, où il parle de ces fêtes galantes. Et il nous dit ceci. D'abord, il parle de ce bourdonnement des guitares, vous savez, qu'on entend dans les fêtes galantes comme dans Watteau. Et il a une trouvaille, il appelle ça les guêpes du désir élégant. Eh bien, il dit, sous ce bourdonnement des guêpes du désir élégant, il y a une plainte, il y a le commencement d'un cri. C'est lui-même qui dit encore dans son texte, un pressentiment fait comme une ombre à ses extases. C'est lui qui nous dit, du noir rampe sous ses nuages blancs. Eh bien, tout le monde observe aujourd'hui, quand on lit les Fêtes Galantes, qu'il y a là un côté, comment dirais-je, un côté lunaire, un côté fantomal. Il y a un goût de la mort, un pressentiment de la mort dans les Fêtes Galantes. Et c'est là qu'intervient la trouvaille de mon camarade Bornec, dont je vous parlais tout à l'heure. Bornec s'est aperçu qu'il y avait effectivement une seconde rencontre importante de Verlaine avec la mort dans ces années-là. C'est un personnage épisodique, je n'aurai que cette occasion de vous le nommer, mais ça vaut la peine de le savoir. C'est une cousine à lui, qui s'appelait Elisa Moncomble, qu'il aimait beaucoup. Je crois qu'il l'aimait à la fois charnellement et sentimentalement. Et puis, elle s'était mariée, l'avait aidé à publier, même matériellement, enfin, lui avait donné de l'argent pour la publication de son premier recueil, Les Poèmes Saturniens. Marié, deux enfants, il continuait à l'aimer beaucoup et respectueusement, et tout à coup, au milieu de l'année 67, je crois, elle meurt. Elle meurt également brusquement, comme le père était mort. Bien, ça le déchire. Il s'aperçoit bien qu'il est sur le bord d'un abîme, enfin, qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe en lui, il freine de tous ses muscles, il essaie de se retenir, et c'est le moment où il décide de se marier. Là, je voudrais que nous regardions un instant ce qui se passe. Porcher, qui à mon avis se trompe, Porcher dit que si Verlaine décide brusquement de se marier au milieu de l'année 68, c'est qu'il a eu un coup de foudre pour une petite fille qui avait 16 ans, vous savez, Mathilde Mottet, qui l'admissaire d'un de ses camarades, qui s'appelait Sivry, et qu'elle lui avait paru ravissante, il avait envie d'elle, il n'y avait pas d'autre moyen de l'avoir que de l'épouser, puis ça lui plaisait beaucoup, corrompu comme il l'était déjà, d'avoir à sa disposition, pour lui apprendre beaucoup de choses, une petite fille de 16 ans. Je crois qu'il y a ça, mais je crois qu'il y a autre chose, et je suis sûr qu'il y a autre chose. Verlaine a peur de lui-même, n'est-ce pas ? Il voit qu'il est en train de sombrer. Alors, quand il pense mariage, il pense certainement aux agréments physiques du mariage, mais il pense sûrement aussi foyer, famille, responsabilité. Il dit, si je m'en sasse dans ce temps d'établi, si j'ai la responsabilité d'une femme et bientôt d'enfants, eh bien, c'est mon salut, vous comprenez ? J'aurai l'air du chef de famille et en réalité, il se blottira contre les siens. Il paraîtra leur défenseur, mais c'est eux qui le défendront, qui le protégeront. Alors ça, c'est le début de la troisième période. La coupure, vous voyez, c'est le moment où il décide de se marier. Regardez, ça ne va pas être long cette fois, cette troisième période, elle commence donc à cette décision de se marier au milieu de l'année 69 et dès l'automne 71, c'est raté, c'est gâché, c'est fini. Quatrième période, la période Rimbaud. Rimbaud va surgir en automne 71 et là, c'est très défini. Arrivée de Rimbaud, on ne sait pas exactement le jour, enfin automne, enfin septembre si vous voulez, 71 et coupure, vous verrez pourquoi, 10 juillet 73. Cette période Rimbaud, on l'a beaucoup étudiée. Je n'aime pas faire de la littérature anecdotique, je ne veux pas vous raconter de détails là-dessus, enfin regardons bien et loyalement simplement ce que c'était. Vous savez que c'est un nommé Bretagne de Charleville, qui était Radcave, comme on dit, qui passait pour être occultiste, qui s'occupait aussi un peu de littérature, mais qui était certainement homosexuel. C'est donc le Radcave machin, la Bretagne, qui a recommandé Rimbaud à Verlaine. Et quand il lui recommande, j'ai l'impression qu'il lui recommande un double titre. Il lui dit, c'est un garçon qui a des dons littéraires étonnants, et d'autre part, je crois qu'il t'intéressera pour d'autres raisons. Alors quand Verlaine voit arriver le petit Rimbaud, il l'enveloppe d'un regard de connaisseur. Vous savez, cette figure de mauvais ange qu'il avait, avec cet œil bleu, enfin cette stature assez athlétique. Et en plus, ça l'intéresse encore considérablement lorsqu'il entend Rimbaud lui développer sa fameuse théorie du voyant, qui comportait ce, entre guillemets, ce long, lent, raisonné, dérèglement de tous les sens. Enfin, vous voyez, ça va bien. Seulement voilà que Rimbaud va retourner le jeu. En un instant, de proie qui devait être, c'est lui qui devient rapace, de victime qui devait être, c'est lui qui devient dominateur. Je crois que Verlaine poursuit un assouvissement et que Rimbaud poursuit une expérience. Verlaine, à côté de Rimbaud, c'est quelqu'un qui a le vertige, il se sent remorqué par un météore. Vous savez qu'on a retrouvé, au moment de l'emprisonnement, enfin au moment du procès, des vers, bien entendu très secrets, que Verlaine avait écrits sur sa liaison avec Rimbaud. Les trois premiers, je vais vous les citer. Je suis élu, je suis damné. Un grand souffle inconnu m'entoure. Ô terreur, parsée, dominée. Les textes les plus importants là-dessus ne sont pas ceux qui ont été écrits par des commentateurs, mais ce sont les textes de Rimbaud lui-même. Vous savez que nous avons deux textes capitaux. Il y a d'abord dans La saison en enfer, délire 2. Vous savez, il y a délire 1, délire 2, c'est délire 2 qu'il faut lire. Et puis il y en a les illuminations, il y a vagabond. Vous savez aussi que dans La saison en enfer, il s'agit de l'époux infernal et la vierge folle, donc masculin et féminin, en réalité deux masculins. Mais l'époux infernal, c'est qui ? C'est Rimbaud, parce que c'est lui qui mène dans le jeu. Eh bien, prenons le texte de la saison en enfer. Le pitoyable frère, dit-il en parlant de Verlaine, le pitoyable frère me réveillait la nuit pour me hurler aux oreilles son songe de chagrin idiot. Il se sentait, disait-il, la bouche pourrie, les yeux arrachés. C'était des cauchemars qui, en effet, venaient à Verlaine lorsqu'ils étaient ensemble à Bruxelles ou à Londres. Il s'était vu comme ça, il s'était vu que les yeux arrachés, la bouche pourrie, et il venait réveiller, secouer Rimbaud pour lui dire « qu'est-ce que tu m'as fait faire ?» Et la phrase que je vais vous citer maintenant, qui est au féminin, vous la transposerez tout de suite au masculin, puisque c'est en réalité Verlaine qui parle. C'est la Vierge folle qui dit ça, hein, la Vierge folle Verlaine. « J'ai été si sérieuse jadis, j'ai quitté tout mon devoir humain pour te suivre. » C'est exactement ça qui s'était passé de la part de Verlaine à l'égard de Rimbaud. Et c'est vrai que Rimbaud lui a fait faire des choses atroces. Mais vous savez comment tout ça va se terminer? Oui, vraiment, terminaison de la quatrième étape, c'est le coup de feu qui va tirer, les deux coups de feu qui va tirer dans cet hôtel de Bruxelles, rue des Brasseurs, sur son camarade et complice Rimbaud, et puis l'arrestation, la prison. 10 juillet 73, fin du drôle de ménage, fin de la quatrième période. Alors maintenant, voilà cette cinquième période. Et je me rappelle bien que, il y a de ça 15 ans, 20 ans, quand j'étais professeur, je sautais là-dessus, me rendant pas compte que c'était une période capitale. Quand on évoque cette vie de Verlaine, on voit d'habitude comme chose importante son adolescence, ses premiers vers, son aventure avec Rimbaud, puis la fin, où il devient un personnage assez illustre, quoique sordide, nous verrons. Mais il y a justement au milieu 10 années qui sont d'une importance capitale et sur lesquelles justement M. Antoine Adam nous a apporté des révélations très éclairantes. 10 ans cette fois, et parfaitement définies, 2 dates. 10 juillet 73, l'incarcération, l'incarcération, et 7 avril 83, donc 10 ans. Alors quoi? D'abord le fait qu'il est en prison. Et vous savez sans doute qu'il a désiré changer sa prison commune de Bruxelles avec un emprisonnement cellulaire, donc tout seul en cellule, à Mons. On nous dit, c'est probablement vrai, qu'il a choisi le régime de cellule parce que ça abrégeait le temps de sa détention. Je crois qu'il y a cependant autre chose. Verlaine, qui est désintoxiqué maintenant par le fait qu'il est en prison et qu'il ne peut plus boire, se reprend, se récupère, comme on dit, fait un examen de conscience et désire être seul, être absolument seul. Précisément pour ne voir personne et penser à lui-même, penser à cette extraordinaire et affreuse aventure qui est la sienne jusqu'à présent. Donc il est en cellule. Et en effet, il change profondément et moralement dans sa cellule, car c'est là qu'il va se convertir. Toujours est-il qu'une preuve qu'il a bien changé, c'est ceci. Tout à coup, pendant qu'il est dans sa prison, et qu'il pense tout le temps à son foyer en se disant « je pourrais peut-être le reconstruire, enfin je vais peut-être être capable de refaire une vie droite et honnête et d'élever mon gamin », tout à coup il apprend que, profitant de son emprisonnement, son beau-père, le notaire Mottet, avait obtenu tout ce que l'on pouvait obtenir en fait divorce à ce moment-là, puisque le divorce n'était pas encore rétabli, il sera en 86, c'est-à-dire un jugement de séparation du tribunal civil de la Seine. Alors la séparation est déjà prononcée. Ben, s'il avait été ce qu'il était encore l'année dernière, il aurait accepté ça, enfin accueilli ça avec une espèce de fureur, vous comprenez, une haine contre son beau-père qui a fait ça. Pas du tout, il fait à cette nouvelle qui le déchire un accueil en larmes. C'est le moment où il écrit ces très beaux vers que vous savez qui sont dans Sagesse. Bon chevalier masqué qui chevauche en silence, le malheur a percé mon vieux cœur de sa lance. On m'a cassé ma vie, dit-il à ce moment-là. Il avait déjà dit ça en 73, c'était un peu tôt, parce que c'est tout de même lui qui s'était cassé sa vie en 73. Mais c'est vrai qu'en 78, après cet effort extraordinaire qu'il avait fait pendant des années sur lui-même, on lui casse sa vie parce que maintenant il était prêt à recommencer et sa chance était là. Elle était dans ce foyer qui ne demandait qu'à se construire. Ben, il n'y a pas moyen. Alors il va retourner à son institution Notre-Dame, à Rethel, et cette fois, vous savez, il a reçu un tel coup qu'il vacille tout de même. Il vacille en ce sens qu'il a moins de courage, puisqu'il ne voit plus d'espoir devant lui. Moins de courage pour tenir bon devant cette tentation permanente de l'alcool. Dans cette petite ville de Rethel, et vous pensez surtout à ce collège catholique, il était surveillé et par tout le monde dans la ville, et par les élèves, et par les maîtres. Il ne pouvait pas boire dans un bistrot, alors il buvait tout seul. Tout seul, il s'enivrait dans sa chambre. Il vacille et il se crispe d'autant plus. Dans la mesure où il se sent vulnérable et menacé, il se durcit, enfin il prend à son égard même une attitude de violence, de véhémence. À ce point qu'il va en devenir assez ridicule, un peu ridicule, et qu'un sobriquet va lui être piqué sur le dos par les élèves. Vous savez, ça se fait, ça, j'ai certainement eu un sobriquet quand j'étais professeur, enfin, chaque professeur a son sobriquet. Eh bien, c'est assez curieux de voir ce qu'était le sobriquet de Verlaine. Vous savez, quand on pense à Verlaine, on voit surtout l'homme de la faim, enfin, cet homme assez souillé, sordide, affreux. Il va penser que les élèves, à cause de l'attitude qu'il avait, toujours si dure, si rigide à l'égard de lui-même, à cause de cette petite barbe qui se laissait pousser maintenant en 2 points, l'avaient baptisé Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ va faire une fameuse imprudence à Pâques 79. Je vous ai dit, parce que c'est vrai, qu'il avait naturellement caché tout ça, l'état civil, enfin, tout son pédigré, tout son passé, à ses religieux de Notre-Dame. Il ne savait pas, les gens qu'il avait engagés, ce qu'avait fait ce monsieur Verlaine, il ne savait même pas qu'il avait écrit des choses. Et à Pâques 79, voilà l'évêque du diocèse qui s'appelle Monseigneur Langeigneux, qui vient en tournée pastorale. Alors Verlaine demande à l'évêque un entretien particulier et secret. Je suppose que l'évêque s'est dit, c'est un monsieur qui veut de l'avancement, enfin on va le recevoir, et je suppose aussi qu'il le reçoit dans le bureau du directeur, quoi, du supérieur. Alors toute porte bien fermée, voilà Verlaine qui se décide à lâcher tout son secret, sa hotte cachée, il la déverse devant l'évêque, il dit à l'évêque ce qu'il n'a jamais dit à personne. Il dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ma vie, il raconte son aventure avec Rimbaud. Il dit qu'il est marié, qu'il voudrait retrouver sa femme. Il demande aide, secours, appui, prière à cet évêque. Je ne sais pas ce que Monseigneur Langeigneux lui a répondu, mais tout le monde sait la suite. Ben, la suite, c'est l'entretien que je viens de vous dire ayant eu lieu à Pâques 78. En juillet 78, Verlaine reçoit du supérieur de Notre-Dame un petit papier haut, très gentil, très poli, en lui disant qu'on revoit la question des effectifs, enfin, des professeurs, et qu'on n'aura plus besoin de ses services à la rentrée. Balancé. Alors il est balancé, il s'en va pas seul. Il s'en va avec un élève. C'est Lucien Létinois. Ben là aussi, je me suis trompé autrefois. J'ai certainement enseigné à mes élèves que Lucien Létinois, dans la vie de Verlaine, c'était le recommencement de l'affaire Rimbaud. C'est faux. C'est Antoine Adam qui a apporté là-dessus la vérité. Vous savez qui est Antoine Adam? C'est un ancien prêtre catholique qui a quitté l'Église, qui est un homme d'une intelligence extrême. C'est le contraire de naïf. C'est un homme qui a pratiqué la confession, fait qu'il voit plutôt le mal, comme il est en effet. Et j'aurais cru qu'Antoine Adam aurait forcément interprété l'aventure Lucien Létinois dans le sens pire. Et il y a des raisons de le croire. Mais Antoine Adam, après avoir apporté bien des textes, bien des documents, conclut non, certainement rien. Bien entendu que Verlaine a lui aussi regardé son petit Lucien, qui avait le même accent que Rimbaud, il venait du même pays, c'était un Ardennais. Il l'a certainement regardé d'abord avec le même regard qu'il avait porté sur Rimbaud. Ce garçon était beau, ce garçon l'intéressait. Mais je suis sûr aussi, avec Antoine Adam, que jamais il ne l'a touché. Jamais il y a un geste qui aurait pu donner à cet enfant le sentiment d'une convoitise, d'une concupiscence. Pourquoi? Parce qu'il a considéré cet enfant, cet adolescent, ce jeune homme, comme le fils que le destin lui arrachait, que sa faute lui avait fait perdre. Il a installé Lucien dans un pensionnat. Il lui a trouvé un petit job, je pense qu'il est répétiteur, à l'institution Esno, qui était à Neuilly. Lui-même n'habite pas avec Lucien, il habite à Boulogne et ils se retrouvaient assez souvent, peut-être tous les soirs, quand il faisait beau dans le bois de Boulogne. Et vous savez peut-être ce beau texte qui est dans Amour, mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne. Il se rappelle lorsque Lucien le reconnaissait à travers les arbres et lui criait Verlaine. Puis voilà qu'au début de l'année, c'est en mars 1983, Lucien tombe malade. Bon, on ne sait pas ce que c'est, on croit d'abord que ce n'est pas tellement grave, mais cette fièvre empire, il faut le transporter à l'hospice de la Pitié, c'est la typhoïde, et il va mourir de ce que Verlaine appelle la mort confuse de la typhoïde, confuse à cause de cette loquacité sinistre de la fièvre, à cause de ces paroles qu'il proférait de plus en plus vite et de plus en plus inintelligibles. Et c'est donc le 7 avril 1883, voilà la grosse coupure, où ce petit lui est arraché. Ça, c'est un sectionnement, je vous assure, pour lui. Il a coupé sur le front du mort une mèche qu'il gardera perpétuellement sur lui. Il lui avait donné une petite croix en or que le garçon avait sur sa poitrine. Il prend la petite croix. Il lui achète une concession à perpétuité avec une grande croix de granit au cimetière d'Ivry. Il écrit là-dessus ces choses sanglotantes que vous trouvez dans Amour, l'affreux Ivry, il y avait cet enfant, etc. Puis je voudrais vous dire deux vers qui vous montreront la profondeur de cette blessure. Cela dura 6 ans, puis l'ange s'envola. Dès lors, je vais hagard et comme ivre. Voilà. Il a 39 ans. Fin de la 5e période, début de la dernière, 6e et dernière période, 13 ans et au bout, la mort, donc parfaitement délimitée aussi. 8 avril 83, la mort de Lucien, et sa mort 8 janvier 96. Alors voilà, c'est complètement fini. Il est l'homme, désormais, l'homme à la côte, vous comprenez, l'homme au bras cassé. C'est un monsieur qui fait grand usage de l'absinthe et des filles, sans dédaigner quelques invertis. C'est le client habituel des hôpitaux de Paris, une espèce de gloire. L'entoure maintenant, dans une lettre que j'ai retrouvée, qui est inédite, une lettre de 67 à son camarade Xavier Dricard, vous savez, le type qui écrivait autrefois la revue Progrès Social. Une lettre de 87, il lui dit, tiens, la gloire maintenant pour moi, comme la moutarde après le dîner. C'est quand Xavier est raté que la gloire lui vient. On s'aperçoit qu'il est tout de même un grand poète, qu'il avait écrit des choses pas mal. C'est une gloire assez, oui, éclatante si vous voulez, mais en même temps assez hideuse, assez sordide, parce que c'est le clochard poète, enfin c'est l'homme qui est perpétuellement ivre, qui est bien amusant, qu'on interviewe, les étudiants l'entourent pour se moquer de lui. Mais enfin, il y a de braves gens qui organisent des souscriptions, il y a M. de Montesquieu qui fait une souscription en sa faveur, on lui organise même des tournées de conférences, comme il dit, gentleman improvisé. Il va parler en Angleterre, il va parler en Hollande, il va parler en Belgique, il s'y conduit très mal, il fait des conférences, paraît-il, dans un état d'ébriété avancée. Puis enfin, il travaille tout de même, il publie des choses, et un recommencement d'aisance lui vient, chose qu'on ignore d'habitude, on croit qu'il est mort dans la misère, pas du tout. À partir de 94-95, il lui vient tout de même un petit peu d'argent, il peut se remettre bourgeoisement, presque en ménage, avec une ancienne prostituée qui s'appelait Eugénie Krantz, qui était décidément préférée à Philomène Boudin. Enfin, il s'installe, comme vous savez, rue Descartes, et c'est là que la mort va le prendre en janvier 96. Voyez-vous, il y a quatre vers de Verlaine que je vais vous dire, et que je voudrais que tout le monde garde inscrit dans sa mémoire quand on veut parler de Verlaine, quand on veut penser à Verlaine. Ces vers sont de 86, et si j'insiste sur la date, c'est que vous vous rappelez que c'est en 85 qu'il a eu son affaire de Vouzière, enfin sa condamnation et sa deuxième tentative pour tuer sa mère. Ces vers de 86 sont intitulés « Mains » et « Mayennes », mes mains. Il s'agit de ses propres mains. Il regarde ses mains comme s'il les voyait douées de je ne sais quel pouvoir autonome, comme si elles ne lui appartenaient pas. Et il écrit exactement ceci. « J'ai peur à les voir sur la table, préméditer là sous mes yeux quelque chose de redoutable, d'inflexible et de furieux. » C'est un pêcheur jusqu'à la fin qui se cramponne à l'espérance. Quoi donc ? Quelle espérance ? L'espérance que sa faute permanente, sa faute charnelle, c'est tout de même de celle qui se pardonne. Écoutez ça de lui. C'est l'offense de la chair, dit-il, pas de l'âme. La chair, elle est coupable, elle est infirme, elle est souillée, il faut qu'elle s'assouvisse telle que je suis. Mais l'âme, derrière, elle reste intacte et donnée, et aimante, et espérante. Et c'est vrai tout de même, vous savez qu'il y a bien pire que la luxure pour vous perdre. Que l'inhumanité est pire, que la méchanceté est pire, que l'exploitation d'autrui est pire. Et quand je pense à ce dévot, décoré, honoré, grand ami du clergé, et sobre et bon père de famille, mais qui sait comment l'argent se gagne sur le dos des faibles et des pauvres, ah, je pense que tout de même, au dernier jour, beaucoup, beaucoup, dit Mauriac, font profession de servir le Christ qui n'ont jamais su qui il était. Finir sur un texte de Claudel que vous savez, mais que je ne résiste pas à la joie de lire. La fin du second poème qui s'appelle L'Irréductible. Le vieil homme à la côte est parti. Il a rejoint le bateau qu'il avait débarqué et qu'il attendait en ce port noir. Mais nous n'avons rien remarqué, rien que la détonation d'une grande voile qui se gonfle et le bruit d'une puissante étrave dans l'écume, rien qu'une voix, comme une voix de femme ou d'enfant ou d'un ange qui appelait Verlaine dans la brume.
Vous venez d'entendre en nouvelle diffusion une conférence donnée à l'Université des Annales par Henri Guillemin, Le drame de Verlaine.
Vous venez d'entendre Le drame de Verlaine, une grande conférence donnée par Henri Guillemin dans le cadre de l'Université des Annales, diffusée le 23 juillet 1956 sur la chaîne nationale.